Témoignages, échanges, discussions au réseau Cogeco. Voici Dan Bigra.
Salut tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je termine mon avant-dernière semaine, il va juste m'en rester une après, et puis la programmation régulière va revenir avec des animateurs normaux. Merci beaucoup d'être avec nous à Québec, Montréal, en Outaouais, en Mauricie, au Saguenay et en Estrie. En deuxième heure, je vais vous poser une question délicate, mais elle se pose. Est-ce qu'on peut comprendre le racisme? Je vais essayer de pas avoir une discussion style « toi, t'es raciste ». Non, je suis pas raciste. Je veux pas qu'on s'accuse personne de rien. On veut comprendre d'où ça vient, les mécanismes où on met de côté certaines gens qu'on ne comprend pas. Alors, on va essayer de partir à la racine de ça. Et en première question, tout de suite, je vous demande, êtes-vous satisfait de la personne dont on traite nos aînés? Faites attention là, avant de m'appeler. Là, on est d'accord, l'horreur des CHSLD, bien avant la COVID, on hurlait que tout le monde était sous-financé, que ça faisait aucun sens. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a des très, très, très beaux côtés aussi. Puis je vais vous en parler immédiatement après le petit message que je vous donne. C'est de m'appeler au 514-790-9850. Ou si vous êtes à l'extérieur de Montréal, le 1-866-790-9850. Je vous parle de ça parce que il y a l'équipe de l'Hôtel Dieu de Sherbrooke qui a obtenu un prix de l'Association des médecins d'urgence des États-Unis. C'est un prix énorme. Et puis, ils sont donc certifiés amis des aînés. C'est une première au Canada parce qu'ils font ils prodiguent leurs soins de façon très, très différente. Évidemment, avec les ressources qu'ils ont, mais vraiment, ils se démerdent. Et puis, je reçois donc celle qui est un peu à la tête de ce programme-là. C'est la docteure Audrey-Anne Rousseau. Elle est urgentologue. Puis c'est la seule médecin au Québec à détenir le titre d'urgentologue spécialisé en médecine d'urgence gériatrique. Bonjour, docteur Rousseau.
Bonjour, M. Bigrand.
Vous allez bien?
Oui, merci. Merci beaucoup de cet intérêt dans ce dossier-là.
Ah, écoutez, je trouve ça passionnant parce que c'est on charle beaucoup auprès des urgences parce qu'évidemment, c'est très anxiogène d'attendre à l'urgence. Une urgence, on ne devrait pas avoir à attendre. Puis c'est tout ce qu'on fait. À un moment donné, vous devez, comme les policiers, être content quand vous avez une petite tape dans le dos. Ça doit faire du bien parce que vous vivez dans notre malheur. Comme les policiers, on ne vous appelle pas quand ça va bien. On se présente chez vous quand ça va très, 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 très mal. C'est l'urgence, là.
Oui, effectivement, ça fait vraiment du bien d'entendre quelque chose de positif par rapport aux urgences.
Moi, je suis très content que ça vous arrive. Vous avez donc vraiment des pratiques très différentes et très délicates sur un paquet de détails. Comment vous recevez vos patients âgés?
À vrai dire, dans le fond, comment ça fonctionne traditionnellement une urgence, c'est, par exemple, vous vous présentez, vous avez une douleur au ventre, vous allez avoir une évaluation, on va vous faire passer des tests, on va trouver votre problème, puis on va vous donner votre traitement, soit vous allez rester à l'hôpital ou on vous retourne chez vous. Mais on se rend compte avec les années, puis avec le vieillissement de la population, que cette façon de faire-là avec les personnes âgées, c'est beaucoup plus délétère. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire dans la mesure du possible, c'est d'évaluer la personne âgée dans tout son ensemble. Donc, d'évaluer son environnement, son milieu de vie, son niveau d'autonomie, son statut psychosocial. Ce sont tous des facteurs qui sont très, très importants et qui vont affecter le problème aigu pour lequel ils se présentent à l'urgence. Puis, ça va leur causer aussi des problèmes plus tard qu'on peut prévenir et qui vont causer une visite à l'urgence. Donc, nous, c'est un peu dans cette façon de faire-là. Dans cette façon de réfléchir-là, pour laquelle on a monté de différents projets, puis on a ajouté différents personnels aussi, des ressources humaines clés pour nous aider à faire cette évaluation qu'on dit multifacettaire ou multidisciplinaire.
Si, admettons, dans quelques années, pas si longtemps que ça, moi j'ai 62 ans quand même, admettons, ça va très, très, très mal, je vais à l'urgence. Ce qu'on a beaucoup fait dans les urgences, c'est tout de suite leur mettre des couches. N'importe quel adulte s'imagine se faire mettre une couche, c'est extrêmement humiliant et déshumanisant. Vous faites pas ça, vous?
Non, on essaie de on fait pas ça. En fait, on essaie de respecter le niveau de continence du patient. Donc, s'il arrive avec sa culotte d'incontinence, évidemment qu'il va en recevoir une. Mais s'ils arrivent continents, on essaie de pas créer de ce qu'on appelle de l'incontinence iatrogénique, c'est-à-dire que ce soit nous qui créons cette incontinence-là.
Ah oui.
Donc, on va favoriser la mise en place de chaises d'aisance si on a des problèmes de mobilité au chevet du patient. Au contraire, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est davantage les mobiliser pour aller à la salle de bain, parce que les 3 ou 4 fois qu'ils vont aller à la salle de bain à partir de l'urgence, ben ça compte aussi pour de la mobilisation, puis on contre un peu le phénomène de déconditionnement, puis oui. qui est souvent une complication, en fait, très, très fréquente là, qu'on voit à l'hôpital avec nos personnes âgées.
Là. Parce que, je reprends mon vieux thème, mais à force de faire des réformes et de mal financer puis d'être toujours à la course, les trucs à se trouver souvent, c'est justement comme ça, mettre des couches tout de suite aux patients, ils rentrent, bon, moins de troubles. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, je parle pas de quelqu'un qui arrive avec un couteau puis qui veut tuer tout le monde, je parle de c'est pas moi, quelqu'un qui fait de l'Alzheimer, ces trucs-là. Vous mettez pas de ce qu'on appelle la camisole chimique automatiquement, vous leur trouvez des activités, je sais pas, des mots croisés, des choses comme ça, mais c'est des choses beaucoup plus humaines que vous trouvez.
Oui, on essaie vraiment de contrôler les troubles de comportement qui sont souvent associés à la démence avec des méthodes qu'on appelle non pharmacologiques. Fait qu'on va s'assurer qu'ils mangent, parce que souvent les troubles de comportement, ils peuvent juste être associés à la faim qui s'exprime différemment. On va les hydrater, les mobiliser, leur faire prendre une marche autour du poste des infirmières. Ça peut désamorcer toute crise là, presque pour un patient dément. On est en train de monter ce qu'on appelle un chariot de stimulation pour lequel il va y avoir une poupée à l'intérieur, des mots croisés, du coloriage, le journal du jour, etc. Donc, pour les occuper, parce que faut pas se le cacher, c'est plate rester sur une civière pour un adulte normal avec nos téléphones puis tous nos moyens de communication. Donc, imaginez eux qui sont vraiment tout seuls puis on leur parle presque pas en général. Donc oui, on essaie de trouver le plus possible des méthodes non pharmacologiques pour contrer ces troubles de comportement-là.
Je comprends. Mais écoutez, ce que vous faites, ça doit être un peu le rêve de toutes les urgences. Il y a personne qui aime ça, travailler à l'urgence puis faire attendre le monde, puis être obligé de prendre des raccourcis, comme on parlait, les couches, les sédatifs, les antipsycholytiques, là, et tout ça. Les gens qui travaillent dans les urgences, le personnel infirmier, les médecins, ils aiment pas ça, faire ça. Ils sont obligés de tourner les coins ronds un peu parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se financer. Comment vous avez financé vos différentes approches parce qu'elles prennent plus de temps?
Elles prennent plus de temps, mais on gagne plus de temps aussi au long cours. Donc, c'est aussi comme ça qu'on le vend. Je vous dirais qu'au point de vue financement, c'est très peu coûteux les changements qu'on a fait. C'est vraiment du changement de façon de penser, de philosophie, de soins, d'effectivement de prendre plus de temps de traiter un problème ou de gérer un problème d'une façon différente que ce qu'on est habitué de faire actuellement. Donc ça demande beaucoup plus d'efforts que de financement. Point de vue monétaire, c'est à la portée de toutes les urgences là, du Québec, même les petites. Nous, ce qui coûte le plus cher, dans le fond, ce sont les deux personnes qu'on a achetées dans notre équipe multidisciplinaire. C'est une infirmière spécialisée en gériatrie à l'urgence. Donc, elle est là à temps plein du lundi au vendredi, puis on va avoir une couverture 7 jours sur 7 sous peu. Donc, cette infirmière-là, elle voit tous les patients de 75 ans et plus de l'urgence qui sont susceptibles de retourner à la maison. Puis, elle les évalue, elle fait des plans de soins avec l'équipe des infirmières et des médecins aussi. Puis, l'autre élément qu'on a ajouté, c'est un physiothérapeute. Donc, c'est le salaire de ces deux personnes-là. Mais à vrai dire, on a seulement rapatrié ces postes-là qui étaient dans l'hôpital, puis on les a ramenés à l'urgence. En fait, on a convaincu l'administration d'attaquer le problème de du vieillissement de la population via l'urgence, qui est un peu une idée novatrice. Quand on leur parlait de notre projet, ils se sont tous dit « Crème, on n'avait pas vu ça de ce temps-là. » C'est vrai que si on mettait les efforts, si on mettait nos ressources à l'urgence, peut-être que au lieu que l'urgence soit seulement le couloir ou la porte d'entrée de l'hôpital, ben en anglais, on dit c'est le front porch. Donc, ça devient le front porch. Oui, dans le sens que on leur donne qu'est-ce qu'ils ont besoin, des services, mais on espère qu'ils retournent souper chez eux. Donc, on espère pas, on n'est pas supposé être juste un espace de transition. On est un département, un service en soi. Donc, on doit offrir des services. Puis, pour finir, sur la question du financement, dans le fond, au niveau des installations physiques, ça coûte vraiment pas très cher. Nous, ce qu'on a rajouté, c'est quelques chaises, quelques fauteuils adaptés, des marchettes, notre chariot de simulation, des horloges et calendriers au mur. Mais on n'a absolument pas détruit les murs, ni refait complètement la peinture ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment dans des petits.
Oui, mais vous mettez des jolies petites phrases. Vous mettez des jolies petites phrases dans vos corridors.
Oui,
les petites citations. Non, mais c'est toutes des petites affaires, mais c'est parce que moi, je veux les nommer parce que c'est des affaires humaines. Et les soins de santé, plus ils sont gros, plus c'est une grosse machine, plus ça manque d'humanité à un moment donné. Donc, vous avez tout contré ça. Ces petits détails-là sont importants. Ils font, ensemble, ils forment une forme de soins qui est différente de ce qu'on, la forme de soins à laquelle on est habitué. C'est très important. Alors, ça vous fait peut-être sourire parce que vous les voyez tous les jours, mais moi, je trouve ça impressionnant et même touchant, parce que ça veut dire que vous vous attaquez pas seulement à la maladie, vous vous attaquez au bien-être de l'être humain qui rentre, qui est plus âgé.
Oui, effectivement, on considère la personne âgée comme étant le centre de nos soins. Donc oui, on essaie de les traiter avec le plus de dignité et de respect possible. Puis on se base un peu sur la façon dont le département d'urgence pédiatrique est organisé. T'sais, eux aussi, ils ont des collants au mur, des belles couleurs. C'est pas des choses qui sont très, très compliquées, mais pour un enfant, ça change complètement la perception d'une salle d'urgence. Donc, c'est un peu dans cette optique-là aussi qu'on fait nos changements. Qu'est-ce qui rendrait notre environnement?
De la part d'un animateur qui est un petit vieux, je veux dire, c'est tous les âges. Ça change pour tout le monde. Moi, je suis sensible à mon environnement. Moi, je suis sensible à tout. Alors, je suis sensible à mon environnement. Fait que si je rentre dans un état où je suis très anxieux à cause d'une maladie et que je vois sur les murs des jolies petites phrases, c'est évident que ça va venir capter mon regard. Puis ça va venir chercher mon attention, puis ça va me faire rêver autrement que juste sur le problème que j'ai au moment où je rentre à l'urgence. Je suis certain que ça a son effet. Puis en parlant d'effet de ces soins-là, est-ce qu'on peut constater, par exemple, est-ce qu'il est trop tôt pour constater qu'il y a des patients qui sont peut-être mieux soignés comme ça et qu'on voit les résultats? Je vous donne un exemple. Par exemple, ils peuvent retourner à la maison peut-être un peu plus tôt. Est-ce que vous voyez ces différences-là?
Oui, on a commencé à évaluer nos performances. Puis oui, on a une petite diminution des admissions à l'hôpital qui n'est pas aussi importante qu'on aurait voulu, mais ce qu'on nous dit par rapport aux médecins qui, eux, hospitalisent les patients, c'est que nos admissions, ils sont de meilleure qualité, dans le fond, c'est qu'on admet les patients à l'hôpital qui ont vraiment besoin de soins médicaux versus avant où on admettait toute personne en attente de CHSLD pour dire quelque chose. Donc là, on essaie de faire vraiment plus d'affaires à l'urgence, plus de travail, dans le fond, en amont. Puis ça, c'est un peu plus difficile à quantifier. Puis on est en train de faire une étude sur la satisfaction des soins par rapport aux patients puis au personnel aussi, mais on n'a pas encore les résultats. On espère que c'est mieux, on présume que c'est mieux.
Bien, on se tiendra au courant de ça à mesure. Il n'y a rien qui nous empêche de reparler. De toute façon, moi, je reviens toujours dans le bout de Noël, dans le bout des fêtes, qui est un bout souvent difficile pour les personnes âgées. Et puis, à ce moment-là, il y a souvent peut-être des symptômes qui s'aggravent simplement par la détresse. Et puis, je suis certain que vous en voyez plus à ce moment-là. On s'en reparlera à ce moment-là. Pour l'instant, écoutez, je vais vous garder avec moi, docteur. On va juste prendre une petite pause. Et puis, je vais demander aux gens, à la lumière de ce que vous venez d'entendre le docteur Audrey-Anne Brousseau citer comme soins qu'il donne à nos personnes âgées, je vous demande, est-ce que ça vous inspire? Oui, les CHSLD, mais on en a parlé puis on va en reparler encore, il y a des efforts à faire. Mais est-ce qu'on peut être content de cette belle nouvelle-là où on traite nos aînés de façon humaine? Ça fait du bien à tout le monde. Je trouve que c'est la bonne nouvelle du jour. Alors, vous pouvez m'appeler au 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Et le Dr Brousseau reste avec nous. On vous revient après la pause.